Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1967, Le Soldat oublié est le récit mémoriel de Guy Sagère, pseudonyme de Guy Mouminou, né d'un père français et d'une mère allemande. L'auteur raconte son engagement très jeune dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et son expérience du front de l'Est, notamment au sein de la division Grossdeutschland. L'ouvrage ne prétend pas constituer une chronique militaire exhaustive, il privilégie la perception d'un soldat de rang, exposé à la peur, au froid, à la faim, aux pertes et à l'effondrement progressif de son univers. Sa force tient donc moins à l'explication stratégique qu'à la restitution sensible d'une guerre d'usure et de survie. Le livre demeure discuté pour certaines imprécisions factuelles relevées par des spécialistes. Mais Sagère a toujours présenté son texte comme un témoignage émotionnel plutôt qu'un document de référence. Cette tension entre mémoire individuelle et exactitude historique est elle-même essentielle à sa lecture. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un front de l'Est vu à hauteur d'homme plutôt qu'à l'échelle des opérations. Le choix central de « Le soldat oublié » consiste à ramener la guerre à l'horizon limité d'un très jeune fantassin. Les grandes séquences du conflit germano-soviétique ne sont pas analysées comme le ferait un historien, elles apparaissent à travers des marches, des positions précaires, des ordres mal compris, des bombardements et la disparition de camarades. Cette perspective explique l'intensité du livre. Le lecteur ne reçoit pas une carte claire des campagnes, mais éprouve l'incertitude qui caractérise la condition du soldat, souvent incapable de savoir où il se trouve, ce qui se prépare ou combien de temps son unité pourra tenir. Sagère restitue ainsi le décalage entre la guerre racontée par les états-majors et celle vécue par ceux qui la subissent au sol. La division Grossdeutschland, fréquemment associée à un statut d'unité d'élite, n'est pas traitée comme un décor glorieux, elle est surtout le cadre d'une exposition durable à une violence extrême. Cette focalisation fait du texte un antidote aux représentations abstraites de la guerre. Elle rappelle que les catégories militaires, victoire, repli, offensive ou résistance, recouvrent, pour l'individu, une succession de fatigue, de peur et de décisions immédiates. C'est aussi pourquoi le livre parle au-delà de son seul contexte national ou militaire. Deuxièmement, la désillusion d'un engagement initialement associé à l'aventure, le récit met en évidence la transformation radicale du regard de Sagère sur son engagement. Très jeune, il est attiré par l'aventure et impressionné par l'ordre, la puissance et l'apparente efficacité de l'Allemagne nazie. Cette disposition initiale ne constitue pas une justification politique rétrospective. Elle permet plutôt de comprendre comment un adolescent peut être séduit par les signes extérieurs de la force et de l'appartenance, sans mesurer pleinement la réalité qu'il dissimule. Au fil du livre, l'imaginaire de l'aventure est détruit par l'expérience matérielle du front, le froid, la faim, l'épuisement. Les blessures, les morts et l'angoisse constante rendent toute idéalisation intenable. L'intérêt analytique de cette trajectoire est de montrer que la guerre ne se révèle pas d'abord comme une idée, mais comme une épreuve corporelle et psychologique. Sagère décrit moins une conversion intellectuelle organisée qu'une érosion, la fascination initiale cède devant la nécessité de survivre d'un jour à l'autre. Cette évolution éclaire aussi l'ambiguïté morale du livre. Il donne accès au vécu d'un soldat de la Wehrmacht sans transformer ce vécu en absolution ni en plaidoyer. Lire ce témoignage exige donc de tenir ensemble deux réalités, la vulnérabilité du combattant individuel et la nature criminelle du régime pour lequel il combat. Troisièmement, froid, faim et fatigue, la matérialité d'une guerre de survie. Dans « Le soldat oublié », les éléments matériels ne sont jamais de simples détails d'ambiance. Le froid du front russe, la nourriture insuffisante, les vêtements inadaptés, la boue, le manque de sommeil et la difficulté à se déplacer déterminent directement les capacités physiques et morales des hommes. Sagère montre que le combat ne se réduit pas au moment où l'on tire une large part de la guerre, consiste à endurer un environnement qui diminue les corps avant même l'affrontement. La faim modifie les priorités, la fatigue altère le jugement et le froid devient une menace aussi concrète que l'artillerie. Cette attention au quotidien explique la puissance durable du récit. Au lieu de présenter le soldat comme un acteur héroïque maîtrisant les événements, le texte le présente comme un être vulnérable, dépendant de ressources fragiles et soumis à des conditions qu'il ne contrôle presque jamais. La retraite. À travers les territoires d'Europe orientale évoqués par Sagère, accentue encore cette logique quand l'armée recule, la cohésion des unités, le ravitaillement et les repères s'effritent ensemble. Le livre aide ainsi à comprendre la guerre d'anéantissement à partir de ses conséquences les plus immédiates sur la vie humaine. Il rappelle que l'effondrement militaire est aussi une expérience sensorielle, avoir froid, ne pas manger, ne plus savoir où dormir et avancer malgré tout. Quatrièmement, la peur, l'endurcissement et la fragilité psychologique du combattant, Sagère refuse de présenter le courage comme une qualité stable ou héroïque. Dans son récit, la peur est constante, parfois paralysante, mais elle coexiste avec l'habitude, la solidarité et des réactions de survie qui permettent de continuer. Cette représentation est importante parce qu'elle rompt avec l'image conventionnelle du soldat impassible. Le combattant n'est pas nécessairement celui qui ne ressent rien. Il est souvent celui qui agit malgré la terreur, faute d'alternatives immédiates. L'endurcissement décrit dans le livre n'équivaut donc pas à une invulnérabilité. Il résulte plutôt d'une adaptation douloureuse à la répétition des pertes et du danger. À mesure que la guerre dure, les émotions peuvent se resserrer, les horizons se réduire et la mort devenir une présence ordinaire, sans jamais cesser d'être traumatisante. Le texte accorde également une place essentielle au lien entre hommes. Les camarades apportent une forme de soutien, mais cette solidarité est elle-même rendue précaire par les séparations, les blessures et les décès. Il ne s'agit pas d'une fraternité abstraite, elle naît de besoins concrets, comme partager un abri, une information ou une ration. En restituant cette oscillation entre attachement et disparition, Sagère fait comprendre le coup psychique de la guerre prolongée. Son récit n'exalte pas la violence. Il expose la manière dont elle déforme durablement la perception, les relations et l'instinct de conservation. En dernier lieu, un témoignage littérairement marquant. À distinguer d'une source historique stricte, la réception de Le Soldat Oublié est indissociable d'un débat sur son degré de précision. Des critiques ont signalé des erreurs ou incohérences portant sur certains noms d'unités, insignes, dates ou détails techniques. Ces réserves imposent une règle de lecture claire, le livre ne doit pas être utilisé isolément pour établir une chronologie des opérations ou vérifier un fait militaire précis. Toutefois, réduire l'ouvrage à ses imperfections manquerait sa nature propre. Sagère a explicitement défini son projet comme la transmission d'expériences intimes et émotionnelles. Rédigé longtemps après les faits, et non comme un manuel de stratégie ou une archive exhaustive. Cette distinction entre vérité documentaire et vérité vécue est au cœur de son intérêt. Une mémoire de guerre peut être lacunaire, recomposée ou imprécise, tout en exprimant avec force la désorientation, l'effroi et l'usure d'un individu plongé dans le conflit. La qualité littéraire du texte tient précisément à cette capacité d'immersion, qui explique son immense diffusion internationale. Pour une lecture rigoureuse, il est pertinent de le confronter à des travaux historiques sur le front de l'Est et sur la Wehrmacht. On peut alors apprécier simultanément sa valeur de récit mémoriel et ses limites de source. Cette double approche protège contre deux erreurs opposées, le prendre pour une preuve irréfutable ou écarter entièrement ce qu'il révèle de l'expérience combattante. En conclusion, Le Soldat Oublié s'adresse en priorité aux lecteurs de récits de guerre, aux amateurs d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et à ceux qui cherchent à comprendre ce que la violence de masse fait à un individu ordinaire. Il intéressera aussi les lecteurs de témoignages. À condition de l'aborder avec une attention critique, l'ouvrage est particulièrement éclairant sur le ressenti du combattant. Beaucoup moins fiable lorsqu'il s'agit d'établir seuls des détails opérationnels, techniques ou chronologiques. Son bénéfice intellectuel réside dans cette confrontation avec une guerre perçue depuis le bas de la hiérarchie, loin des tableaux stratégiques et des récits de commandement. Le lecteur y saisit concrètement comment la faim, le froid, la fatigue, la peur et l'attachement aux camarades organisent l'existence quotidienne d'une unité en campagne. Par rapport à de nombreuses histoires militaires du front de l'Est, le livre se distingue par son intensité subjective et sensorielle. Il ne cherche ni à fournir une synthèse des batailles, ni à célébrer une unité prestigieuse. Sa perspective est celle d'un très jeune homme dont l'enthousiasme initial se heurte à une guerre devenue lutte de survie. Cette voix, inconfortable parce qu'elle vient d'un soldat engagé dans l'armée allemande, oblige également à distinguer compréhension du vécu et approbation politique ou morale. La place singulière du livre vient enfin de son statut ambigu grand récit mémoriel, puissant sur le plan littéraire, mais à compléter par l'historiographie. C'est précisément cette tension qui en fait une lecture durable et exigeante. Si vous souhaitez soutenir Guy Sagère, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.